gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit à nouveau béni. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Jamais, jamais nous ne le louerons assez. Jamais nous ne le bénirons. Combien il est bon, il nous a aimés chacun personnellement. Que son nom soit béni, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous a fait du bien par sa présence, il veut nous faire du bien par sa parole. Il nous a laissé sa parole pour nous instruire, pour nous édifier, nous corriger, nous enseigner, nous avertir, nous nourrir, afin que nous devenions des personnes adultes dans le Seigneur et que nous soyons debout lorsqu'il reviendra. À lui seul soit toute la gloire. Alléluia. Ce sera le dernier message de l'année et j'aimerais, comme nous allons passer d'une année à l'autre, j'aimerais que ces paroles nous édifie les uns et les autres, et que nous puissions garder dans nos cœurs cette parole de Dieu. Comment passer d'une année à une autre? Comment expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies? Comment vivre une vie chrétienne qui le glorifie toujours plus? Il nous faut toujours et toujours revenir à la croix de notre Seigneur Jésus. C'est là que tout a été joué. C'est là que tout a été remporté. Si nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse, il nous faut toujours revenir à la croix et voir et comprendre ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est bon de nous rappeler cela. Quelle a été la grande délivrance que nous avons, que Dieu nous a accordée à la croix. La grande délivrance. Car à la croix, nous sommes passés de la mort à la vie. À la croix, il s'est passé de grandes choses. Et j'aimerais qu'on voit cela ce matin, en prenant comme texte de base Colossiens chapitre 2, versets 12 à 14. Colossiens 2, chapitre 1, pardon. Chapitre 1, versets 12 à 14. Voilà trois versets qui peuvent réellement nous donner une nourriture réelle pour chacun d'entre nous. Colossiens, chapitre 1, versets 12, 13 et 14. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime. Il a une révélation. Ce qu'il dit maintenant, personne avant lui n'a pu le dire. C'est par une révélation de Jésus-Christ qu'il dit ces choses. Et il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Et un deuxième passage dans Actes chapitre 26, verset 18. Actes 26, 18. C'est l'apôtre Paul qui se trouve devant le roi Agrippa. Et il parle de ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Et à partir du verset 17, voici ce qu'il dit. Et au verset 16 déjà, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Ce que Paul dit ici, c'est ce qu'il dit aussi dans les Colossiens. C'était une vision céleste. Et j'aimerais que, et le Seigneur voudrait qu'on ait, au début de cette nouvelle année, une vision céleste. Car sans une vision céleste de ce que Dieu a fait pour nous, nous ne tiendrons pas le coup dans ce monde. Et vous le savez, plus nous allons de l'avant, plus le combat va grandissant. Plus les épreuves iront grandissantes. Il ne faut pas s'attendre à ce que les difficultés aillent en diminuant. Si nous nous attendons à ce que les difficultés aillent en diminuant, nous nous faisons des illusions. Les difficultés iront en grandissant. Les épreuves iront en grandissant. Mais nous tiendrons le coup, comme Paul, si nous avons devant nous cette vision céleste de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la réalité de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu leur ouvriras les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Comment passer d'une année à l'autre? La parole de Dieu nous dit comment nous pouvons passer d'un état à l'autre, d'une année à l'autre, mais dans le domaine spirituel. Vous savez, quand il est dit ici, dans les Colossiens, il y a, au verset 13, il est dit « qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand Paul écrivait cela, il pensait à quelque chose de très précis. Vous savez que dans les temps anciens, lorsque un royaume allait combattre un autre royaume et que un royaume vainqueur se manifestait, vous savez ce qu'on faisait des vaincus? On emportait tout le peuple de vaincus était pris et emmené dans le pays du vainqueur. Le peuple était littéralement transporté. Il était transporté du pays où ils habitaient pour être transporté dans le pays du vainqueur. C'est là l'image que Paul utilise. Et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu une délivrance. Nous avons été délivrés et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes passés d'un état à un autre. Nous avons quitté un pays pour entrer dans un autre pays. Nous avons quitté un maître pour nous attacher à un autre maître. Amen. Nous avons quitté un esclavage pour entrer dans le pays de la liberté. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Nous avons été transportés. Savez-vous que vous avez été transportés? Et ces versets-là nous disent un peu dans quel domaine nous avons été transportés. Nous avons passé de la mort à la vie. Nous avons passé d'un état à un autre état. Cela a été fait il y a 2000 ans à la croix. Et dans ces trois versets qui sont mentionnés ici, il est question de sept transports, si vous voulez bien, sept transports. Sept déménagements, sept transports célestes. en attendant le dernier déménagement où nous sommes transportés littéralement dans la présence de Dieu, savez-vous que vous avez été délivrés déjà? Dans ces passages, il y a cette délivrance, cette grande délivrance du pays où nous étions esclaves de notre ennemi. Un plus grand que notre ennemi est venu. Il nous a rachetés. Il a brisé nos chaînes. Et il nous a transportés dans un autre pays. Alléluia. Comment passer d'une année à l'autre en réalisant ce qui s'est passé lorsque nous nous sommes convertis? Il y a eu sept changements, sept transports, cette grande délivrance de notre passé. Vous savez, un des plus grands problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils regardent à leur passé. Ils retournent à leur passé. Ils pensent que le problème de leur passé n'est toujours pas réglé. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de la croix. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas certaines choses, pas la plupart des choses, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque vous lisez les évangiles, les écritures, les épîtres, vous ne voyez jamais les apôtres revenir sur le passé des chrétiens. Jamais. Jamais. Vous ne voyez à un moment donné les apôtres donner un enseignement où on revient sur le passé des chrétiens. Jamais. Et aujourd'hui, nous entendons toutes sortes d'enseignements qui nous poussent à aller fouiller dans notre passé, n'est-ce pas vrai? Et nous voyons des multitudes de chrétiens qui passent tout leur temps à vivre dans leur passé. Ils disent, ah, il y a encore ça qui n'a pas été fait, il y a encore ça qui n'a pas été fait. Et ils n'en sortent pratiquement plus. Mais le message de l'apôtre est le message d'une grande délivrance. Alléluia. Alors, quelles sont ces sept grandes délivrances? Sept grands transports. C'est comme sept fusées, vous voyez, c'est comme une fusée, si vous voulez bien, à sept étages. Une fusée à sept étages qui a pris son envol pour nous transporter et nous donner d'atterrir dans le pays céleste. Si vous le voulez bien, la première étage de la fusée est celle-ci. Dieu nous a délivrés de la pauvreté spirituelle pour nous donner l'abondance spirituelle. Alors, nous voyons cela au verset 12. Au verset 12, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Avez-vous remarqué ici? À l'héritage des saints. Cet héritage, c'est tout ce que Dieu avait en réserve, il nous l'a donné en Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul s'écriait, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui habite la plénitude de la divinité. Alléluia! Savez-vous que le problème des Colossiens à ce moment-là était un problème où les Colossiens commençaient à être séduits par toutes sortes de philosophies? Et au lieu de s'attacher au Seigneur, ils commençaient à s'attacher à des doctrines étrangères, à des philosophes, à des hommes. Et l'apôtre, à des hommes religieux, pour les pousser à pratiquer des choses religieuses, pour soi-disant les délivrer de leur passé. Mais Paul les exhorte et dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez qui vous ont été données, et abondé en
l'action de grâce. Voyez-vous, le but de l'apôtre, c'était d'attacher les chrétiens à Christ, de les enraciner, de les fonder et de les affermir en Christ. Alléluia! Toute l'abondance spirituelle est en lui, mes amis. En lui et en lui seul. C'est notre héritage, c'est Jésus, c'est une personne. Amen. C'est une personne. N'essayons pas d'aller à gauche ou à droite. Jésus est notre héritage. Et c'est pourquoi quand Paul a compris cela, il dit, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'était un message tout à fait nouveau. Et peu de chrétiens, malheureusement beaucoup de chrétiens, ne réalisent pas cette gloire de Dieu qui est en nous. Christ en nous, si Christ est en nous, la gloire de Dieu est avec nous. Alléluia. L'héritage divin est avec nous. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous sommes passés de la pauvreté spirituelle à l'abondance spirituelle. Mes amis, en Jésus-Christ, nous avons cela. Nous devons tout simplement le croire. Et si nous le croyons, alors comme Paul, nous allons dire, rendez grâce au Père. Voyez-vous, autrement dit, Paul disait, mais dites merci au Seigneur pour ce que vous avez déjà reçu. Christ est en vous. Vous avez reçu son héritage, vous avez reçu sa parole, son esprit, son amour, sa sagesse, toutes ses grâces, ses dons, vous les avez reçus, vous les avez dites merci. La grande délivrance, c'est que Dieu nous a délivrés de notre pauvreté spirituelle. Beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui disent, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Alors qu'ils devraient plutôt passer leur temps à dire, merci Seigneur pour ce que tu m'as déjà donné. Merci pour l'amour que tu m'as donné. Merci pour les grâces que tu m'as donné. Merci pour les talents que tu m'as donné. Merci pour l'amour que tu m'as donné. Merci pour l'esprit que tu m'as donné. Merci pour ton amour que tu m'as donné. Merci pour l'onction que tu m'as donné. Merci, merci, merci Seigneur. Paul dit, rendez grâce au Père. Dites merci au Seigneur. Il y a trop de prières qui sont des prières de mendicité encore. Parce que nous n'avons pas réalisé ce qui s'est passé à la croix. À la croix, nous devons réaliser que nous n'étions rien du tout, mais que désormais Christ est devenu tout pour nous. Amen. Absolument tout. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, mais en Christ, nous avons tout pleinement. Gloire au Seigneur. Nous sommes passés de la pauvreté spirituelle à l'abondance. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Quel héritage ? Alléluia ! Quel héritage ! Vous avez un héritage ? Tout ce dont nous avons besoin pour l'œuvre du Seigneur, Dieu nous l'a donné. Si nous pouvions changer nos prières, nos requêtes en actions de grâce, nous commencerions à expérimenter l'héritage de Dieu. Amen. Tant que nous, vous savez, la contradiction dans la vie de certains chrétiens, c'est que on demande des choses qui nous appartiennent déjà. Regardez-moi ça. On demande à Dieu des choses qui nous appartiennent déjà. Le pardon, la délivrance, l'amour de Dieu, les dons spirituels, tout cela, Dieu nous les a donnés. Si nous comprenons que nous les avons, nous allons commencer à louer le Seigneur et à lui dire merci pour ce que tu m'as donné. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu en nous commence à agir et à manifester ce que Dieu nous a déjà donné. Mes amis, si nous passons plus de temps à lui rendre grâce, rendez grâce au Père, cela veut dire dites merci parce qu'il vous a béni. Votre mendicité spirituelle est terminée. Désormais, en Christ, il y a l'abondance. Alors bien sûr, s'il y a l'abondance et si Christ vit en nous, alors c'est une vie extraordinaire avec le Seigneur, où jour après jour, nous découvrons ses grâces, ses merveilles. Amen. Cet héritage extraordinaire, nous ne pouvons pas nous lasser avec le Seigneur. Au contraire, si quelqu'un se lasse du Seigneur, c'est parce qu'il n'a pas réellement saisi tout ce qui est en Christ. Alors le premier... La première grande délivrance, nous sommes délivrés de notre pauvreté spirituelle pour recevoir l'abondance spirituelle qui est en Christ. Amen. C'est la première délivrance, grande délivrance. Deuxième grande délivrance maintenant, nous sommes délivrés du salut par les œuvres pour obtenir le salut par grâce. Deuxième grande délivrance, nous sommes délivrés du salut par les œuvres pour entrer dans l'héritage du salut par grâce. Avez-vous remarqué ici, au verset donc 12 toujours, nous avons cette pensée que nous avons part à l'héritage. Qu'est-ce qu'un héritage? Vous le savez comme moi. Un héritage, c'est un don que vous faites, qu'on vous fait. Donc ce n'est pas quelque chose que vous méritez. Ce n'est pas quelque chose que vous devez gagner. C'est quelque chose qu'on vous donne, n'est-ce pas vrai? Vous n'y êtes pour rien. C'est un cadeau qui vous est donné. C'est mon héritage. Autrement dit, c'est vraiment une grâce. Vous n'avez rien fait. Et on vous donne quelque chose d'extraordinaire. C'est cela un héritage. Alors ici, pourquoi Paul rend grâce au Père? Une deuxième grande délivrance. Parce que les Colossiens, à ce moment-là, étaient des gens très religieux. Et les religions, d'une manière générale, ont toutes le même principe ou la même pensée, le même fondement, qui est le salut par les œuvres. Fais, et tu seras sauvé. Tandis que l'Évangile dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voyez-vous, ce qui caractérise une religion, c'est cela, c'est fait. C'est le salut par les œuvres. On doit toujours faire quelque chose pour être sauvé, pour chercher à être sauvé, pour plaire à Dieu. Dieu nous dit maintenant, Paul nous dit, mais rendez grâce au Père, c'est fini, cet esclavage-là. Vous avez quitté ce pays où l'on essaye à être sauvé par ses œuvres. Jamais vous n'y arriverez. Ce que vous ne pouvez jamais mériter par vos œuvres, Dieu vous l'accorde comme un héritage, comme un cadeau. Alléluia! C'est une délivrance extraordinaire. Être délivré de ses propres œuvres, de ses mérites. Mes amis, si Dieu nous bénit en Christ, c'est par grâce et toujours par grâce. Ne l'oublions pas. Et pendant toutes les années qui vont venir, c'est par grâce que Dieu nous bénit. Et nous devons constamment nous rappeler cela. Car bien souvent, en tant que chrétiens, nous nous décourageons, voyant nos faiblesses. À la fin d'une année comme cela, si on fait un peu le bilan, bon, on va voir les bénédictions de Dieu, mais il y a beaucoup de choses qui nous écrasent. Et on dit, Seigneur, il y a ça qui n'a pas été fait, il y a ça. Et finalement, le négatif l'emporte sur le positif. Et nous nous décourageons. Et c'est ainsi que bien souvent, certains chrétiens recommencent la nouvelle année découragés déjà. Ils ont promis certaines choses au Seigneur et ils n'ont pas pu tenir ces promesses. On dit, Seigneur, encore une fois, je te fais chaque fois les mêmes promesses et à la fin de l'année, je suis de nouveau au même point.
impossible. Chaque fois, je te promets quelque chose et puis ça ne marche pas. Et sans nous en rendre compte, parce que le cœur humain est ainsi, sans nous en rendre compte, nous pensons que nous pouvons gagner l'approbation de Dieu par nos mérites, par nos prières, nos bonnes œuvres, tout ce que nous pouvons faire. Nous pensons que ces choses peuvent nous gagner sa faveur. C'est une erreur et une illusion. Nous devons quitter ce pays. Quitte ce pays. C'est un pays maudit. Le salut par les œuvres. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est par grâce que tu as sauvé. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Deuxième grande délivrance, es-tu délivré de cela? Est-ce que tu as cessé de compter sur toi-même, sur tes mérites? Si tu regardes à toi, tu ne peux être que découragé. Dès que je regarde à moi-même, je vois mes faiblesses, je vois mes manquements, je vois tout ce qui ne va pas. Et si je regarde trop à moi-même, si je m'attarde à cela, je suis complètement paralysé. Et je me dis, mais ça ne vaut pas la peine de continuer. Seigneur, utilise-en un autre, prends quelqu'un d'autre. Si je regarde à moi-même, si tu regardes à toi-même, tu ne fais plus rien du tout. Et si tu regardes à toi-même au début de cette année et pendant toute l'année, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Il veut t'utiliser, mais il ne pourra pas le faire. Il te délivre de ce pays maudit des bonnes œuvres. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas obéir. Ne veut pas dire que tu ne dois pas faire des œuvres et pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais cela veut dire que dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous recevons, nous considérons cela comme une grâce de Dieu. Amen. Tout comme une grâce de Dieu. La grâce de Dieu envers moi a été grande, disait l'apôtre Paul. Grande, mes amis. Atterrissons sur ce merveilleux pays de la grâce de Dieu. C'est un héritage, c'est ton héritage. Dieu te bénit parce qu'il t'aime. À cause de Jésus-Christ, tu ne mérites rien. Tu es haïssable, mais il t'aime quand même. Alléluia. Et il te bénira encore si tu veux tout simplement venir à lui, te soumettre à lui et lui dire que ta volonté se fasse dans ma vie et non la mienne. Gloire au Seigneur. Quelle délivrance! Ne regarde plus à toi. Combien de fois nous sommes paralysés parce que nous regardons trop à nous-mêmes, à ce que nous faisons. Mais considère plutôt ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Considère plutôt cela. Gloire au Seigneur. Amen. Quelle délivrance. C'est un héritage. Le salut, les bénédictions, c'est un héritage. Dieu nous les accorde parce que nous croyons tout simplement. Non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que nous croyons. Crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cesse de ces introspections continuelles. Ceux qui s'attardent toujours à regarder en eux-mêmes ne s'en sortiront jamais. Cette introspection maladive. Combien de chrétiens s'arrêtent à cela? Jamais tu ne trouveras quelque chose de bon en toi. Et si un jour tu trouves quelque chose de bon, le lendemain, tu fais une autre expérience pour réaliser que finalement, c'est pas si beau que ça. Et tu es tout de suite déçu et tu ne t'en sors pas. Et tu es découragé. Sois découragé une fois pour toutes de toi-même. Je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon, disait l'apôtre. Rien de bon. Sais-tu qu'en toi, il n'y a rien de bon? Ça, c'est le premier pas vers la délivrance. Seigneur, je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Quelle parole de délivrance! Alors après, tu pourras dire, eh bien, je peux tout par Christ qui me fortifie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia! Quelle délivrance! C'est un héritage, ne l'oublions pas, mes amis. Dieu veut vous bénir par grâce, parce qu'il vous aime, parce qu'il a préparé de grandes choses pour vous, et parce que, en vous bénissant, il veut vous rendre en bénédiction aux autres. Plus tu désires bénir les autres, plus Dieu te bénira aussi. Amen. Ne l'oubliez pas, cela aussi. Quels sont ceux qui sont véritablement bénis du Seigneur, ceux qui ne veulent pas garder cette bénédiction pour eux-mêmes? C'est un principe divin dans la Bible. Dieu a béni des hommes qui voulaient être en bénédiction aux autres. Mais si nous voulons simplement être bénis pour nous-mêmes, sans désirer communiquer aux autres ce que nous avons reçu, nous perdrons cette bénédiction. Donne, et il te sera donné. Et on versera dans ton sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. À celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Veux-tu être une bénédiction aux autres ? Dieu te bénira au-delà de toute mesure. Tu verras, tu verras. Mais ne garde pas cette bénédiction pour toi-même. Oublie-toi et donne-toi aux autres. Cette bénédiction coulera dans ta vie comme tu ne l'as jamais expérimentée. Alléluia ! Que notre prière en ce début d'année soit, et en début de chaque année, et au début de chaque journée, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Fais de moi une bénédiction pour les autres. Je ne te demande même pas de me bénir, mais je veux être une bénédiction pour les autres. C'est alors que vous recevrez les bénédictions que vous n'avez pas reçues. Alléluia. Et vous savez ce qu'est la bénédiction de Dieu ? La bénédiction de Dieu correspond à cet enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir près de 20 000 personnes ? Dites-moi un petit peu. Parce qu'il y avait à peu près 20 000 personnes lors de la multiplication. Est-ce qu'avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir tant de personnes ? Jamais. Mais avec la bénédiction de Dieu, on peut le faire. C'est cela la bénédiction. C'est Dieu qui bénit le peu que nous avons. Tu as peu, nous avons tous peu, mais si Dieu bénit ce peu peut être une bénédiction à des multitudes, alléluia. Ne limite pas la bénédiction de Dieu, ne limitons pas un Dieu illimité. Ne limite pas la grâce de Dieu, ne limite pas tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ses projets sont grands pour toi. Tu seras étonné de voir tout le bien qu'il pense de toi. Tu seras étonné de voir tous les projets merveilleux qu'il a pour toi. Si tu veux simplement être une bénédiction, me voici Seigneur, je vais être en bénédiction. Cette bénédiction sera sur toi et par toi elle coulera sur les autres. Gloire à Dieu. Allons un peu plus loin. Une troisième délivrance maintenant. Une troisième grande délivrance. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit au verset 12 toujours. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, des saints, donc des enfants de Dieu, des saints. Ici, l'expression, la pensée est celle-ci, nous sommes délivrés de la rébellion pour nous consacrer à Dieu. Un saint, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est séparé pour Dieu et qui est consacré à Dieu. Alléluia. Et autrefois, nous étions rebelles. Avant la conversion, nous étions tous des rebelles. Mais à la conversion, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dieu nous a tirés de ce désert aride de la rébellion. Et il nous a transportés dans le pays de Canaan, de la consécration à Dieu. Dieu nous appelle des saints maintenant. Il t'appelle saint. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tu es séparé du péché. Deuxièmement, que tu es consacré à Dieu. Et troisièmement, que tu dois ressembler au Seigneur. Un saint doit tout faire pour ressembler à son maître. C'est pourquoi l'apôtre, au chapitre 3 et au verset 12, voici ce qu'il dit en parlant des saints, Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, voyez-vous, il revient là, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Voyez-vous ici, marchez comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ici, Dieu nous exhorte à à manifester les fruits de l'Esprit, à manifester le caractère du Seigneur. Amen. Autrefois, nous étions des rebelles. Nous avons quitté maintenant ce désert aride de la rébellion. Et nous sommes devenus des saints, séparés, consacrés à Dieu, séparés du péché, consacrés à Dieu, et manifestant le caractère de Dieu. Alléluia. En manifestant le caractère de Dieu, quelle harmonie, quelle paix, quelle unité, quel amour au milieu de nous. Il n'y a rien de tel pour convaincre un pécheur, pour convaincre un païen, et pour lui dire, mais Dieu habite au milieu de ces gens-là. Si Dieu t'appelle saint, c'est parce qu'il veut que tu sois séparé du péché, consacré à Dieu, et que ta vie reflète le Seigneur. Amen. C'est ce que tu es. Tu es un saint de Dieu. Alléluia. Quelle délivrance. Désormais, tu ne dois plus vivre dans la rébellion. Tu ne dois plus dire, Seigneur, je veux faire ma volonté. Mais tu dois dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Chaque jour de notre vie, disons-lui, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et là alors, quelle grâce, quel miracle Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui constamment soumet sa volonté à celle du Seigneur. Amen. Une quatrième grande délivrance maintenant. Nous sommes délivrés des ténèbres pour être transportés dans la lumière. Au verset 12 toujours, il est dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez, une autre grande délivrance maintenant. Nous sommes délivrés des ténèbres pour être transportés dans la lumière. C'est ce qui s'est passé le jour où nous nous sommes convertis. Les ténèbres ont été vaincues dans nos vies. Amen. Et nous sommes maintenant transportés dans le royaume de la lumière. Vous savez, quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas où il va, et il marche sur les pieds de son voisin. Quand on est dans les ténèbres, on se marche sur les pieds des uns des autres. Autrefois, nous marchions comme cela. On se haïssait les uns les autres. On se détruisait les uns les autres. On se mordait les uns les autres. Parce qu'on était dans les ténèbres. On ne savait pas. Quelqu'un qui est dans les ténèbres ne sait pas où il va et ne sait pas ce qu'il fait. Mais maintenant, nous sommes dans la lumière. Nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous faisons. Et nous manifestons les fruits de la lumière qui consistent en toutes sortes de bonté, de justice, de sainteté. Amen. Et maintenant, nous sommes enfants de lumière. Et nous devons marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Et nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, continue de nous purifier de tout péché. Pendant cette année qui vient, marchons dans la lumière. Haïssons les ténèbres, sous quelque forme que ce soit. Ne participons à aucune œuvre des ténèbres. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu, nous devons le condamner. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous avons quitté ce pays des ténèbres pour entrer dans le pays de la lumière. Alléluia. La lumière où tout est transparent, tout est pur. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons un peu plus loin à une cinquième grande délivrance. Nous avons été délivrés de l'esclavage pour être transportés dans le pays de la liberté. Au verset 13, il est dit ceci. Verset 13. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption. Ici, il y a là une pensée extraordinaire, une autre délivrance, grande délivrance. La rédemption, le mot rédemption suggère une grande délivrance, et cette grande délivrance est celle-ci, nous sommes délivrés de l'esclavage pour entrer dans le pays de la liberté. Vous savez que quand on utilise le mot rédemption dans la Bible, le mot racheter, rédemption, veut dire être délivré de l'esclavage. Nous étions autrefois esclaves de nos péchés, esclaves de Satan. Et quand Jésus est venu, il est venu nous délivrer de cet esclavage, un esclavage duquel nous ne pouvions jamais nous libérer, ne l'oubliez pas. Nous étions à un tel point esclaves de nos péchés et de Satan que personne ne pouvait nous délivrer, personne. Personne. C'était un esclavage pour toujours. Nos efforts, quels qu'ils soient, ne pouvaient amener la délivrance. La rédemption est celle-ci, c'est que quelqu'un est venu nous délivrer. Un plus fort que le péché, un plus fort que Satan, est venu donner sa vie. Par son sang, nous avons été rachetés. Désormais, nous sommes libérés du péché, de la maladie, de la mort, de Satan, de la crainte, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia! Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Gloire à Dieu! Nous sommes libres! Il n'y a plus d'esclavage. C'est pourquoi nous devons apprendre à penser et à parler comme des êtres libres. Même si nous avons quelques problèmes, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des gens libres. À aucun moment, l'apôtre Paul met en doute la liberté de ces gens. Il leur dit tout simplement que s'il y a certains problèmes, eh bien, il faut faire mourir les œuvres, les actions de la chair, les œuvres de la chair. Il faut marcher selon l'esprit et ne pas accomplir les œuvres de la chair. Mais à aucun moment, il leur dit qu'ils sont esclaves. Il leur dit, vous devez maintenant marcher en nouveauté de vie. Combien de fois il leur dit cela ? Il leur dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions et tout cela. Faites mourir toutes ces choses. Ne mentez pas les uns aux autres. Et ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voyez-vous, donc, chaque jour, nous devons réaliser qui nous sommes. Nous ne sommes plus maintenant des esclaves, nous sommes des êtres libres. Amen. Nous sommes libres. Nous avons été délivrés de ce marché de l'esclavage. Jésus est venu. Il nous dit, mon enfant, tu as les chaînes aux mains, mais je viens pour donner ma vie. Par mon sacrifice, je te libère de cet esclavage. Je paye ta dette, car tu as péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'esclavage de ton péché, de Satan. Mais si je viens donner ma vie, moi le juste, pour toi injuste, moi l'innocent, pour toi coupable, alors tu es libre. Et le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Je brise tes chaînes. Par mon sacrifice, tes chaînes sont brisées. Tu es un être libre. Va maintenant. Et ne pêche plus. Alléluia. Nous avons la rédemption. Mes amis, la rédemption veut dire que nous sommes désormais libres. Jésus a payé la dette. Ah, vous dites, mais là, il y a encore ceci. Tu es libre. Tu dois réaliser que tu es un homme, une femme libre. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu agira en toi et te transformera à l'image du Seigneur. Le Saint-Esprit agit toujours en parallèle avec l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Quand tu crois ce qui s'est passé à la croix, le Saint-Esprit agit en toi pour te transformer et pour te rendre semblable au Seigneur. Alléluia! La délivrance est en regardant au Seigneur, à la croix, et non pas nous-mêmes. Ou à notre esclavage. On ne s'en sortira jamais. Quelle grande délivrance! Jésus est venu sur le marché des esclaves. Il a donné sa vie. Il a payé notre dette. Il a brisé nos chaînes et il nous dit maintenant, allez, sortez d'ici, vous êtes libres. Le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Gloire au Seigneur! Quelle libération! Une sixième grande délivrance maintenant. Nous avons été délivrés de la condamnation pour aller dans le pays du pardon. Verset 14, il est dit en lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rémission, autrement dit le pardon. Et ici, quand il est question de pardon, c'est un vrai pardon. c'est un pardon qui nous libère véritablement. Ou quand Dieu dit, parce que nous nous sommes repentis sincèrement, il nous dit, eh bien, parce que tu t'es repenti, je te pardonne. Et ce pardon est tellement authentique, réel, que désormais, Dieu ne voit plus ta faute. Tu n'as plus rien à faire encore pour être pardonné. Tu es pardonné définitivement et pour toujours. Ton péché n'existe plus. Alléluia! Cette condamnation qui était sur toi n'est plus là maintenant. Tu as la rémission de tes péchés. Tu n'es plus un être condamné. Tu es un être libre. Tu es un membre de la famille de Dieu maintenant. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Tu es délivré de ce pays de la condamnation à cause de ton péché. Jésus a payé ta dette. Nous avons la rémission des péchés. Quand notre Seigneur te dit, va, tes péchés te sont pardonnés parce que tu t'es humilié, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Crois-le et réjouis-toi de ce pardon extraordinaire. Alléluia. Prends Dieu au mot. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Prends-le au mot. Il n'y a rien de tel pour réjouir le cœur de notre Père Céleste que de le croire sur parole. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute plus son péché. Heureux l'homme à qui ses péchés ont été couverts. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Et je termine maintenant. Septième grande délivrance. Il nous a délivrés de la puissance de Satan pour nous faire entrer dans le pays de la puissance de Dieu. Amen. Verset 13. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et là, la septième grande délivrance, c'est que nous avons été délivrés de la puissance de Satan. Nous avons été délivrés de la puissance de Satan pour entrer dans le domaine où la puissance de Dieu est à l'œuvre. Nous avons été délivrés, vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres. Mes amis, voilà une vérité extraordinaire. Vous n'avez pas à regarder dans votre passé pour voir encore ce dont il faut être libéré de Satan. Tu as été libéré, alléluia! C'était le problème des Colossiens. Ils étaient en train de chercher, ils disaient en somme que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant pour délivrer les hommes de l'esclavage de Satan. Alors ils étaient en train de pratiquer toutes sortes de choses. Ne mange pas, ne goûte pas ceci, ne fais pas cela. Il fallait faire tout un tas de choses pour soi-disant être délivré de la puissance de Satan. Quelle erreur! Rien de ce que vous pouvez faire, rien de ce qu'un homme peut faire peut vous libérer. À la croix, tout a été libéré. Alléluia! Nous avons été délivrés de la puissance de Satan. Nous pouvons lui dire, merci Seigneur. Satan n'a aucune part en moi désormais. Je suis un être libre. Je suis maintenant transporté dans le royaume du Fils de ton amour, où la puissance de Dieu est à l'œuvre. Amen. Ce n'est plus la puissance de Satan qui vous tient, c'est la puissance de Dieu qui vous tient maintenant. Amen. Alléluia. La puissance du diable n'est plus en vous, c'est la puissance de Dieu qui est en vous. Alléluia. La puissance de Satan n'est pas autour de vous pour toujours essayer de vous faire tomber. Bien sûr, l'ennemi est là, mais c'est la puissance de Dieu qui vous protège contre les puissances du malin. Amen. Nous devons être conscients de la réalité de la puissance de Dieu. J'ai dit au début et je termine que plus nous allons de l'avant, plus il y aura des difficultés. Mais mes amis, écoutez-moi bien, plus le mal grandira, plus l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit grandira aussi. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas peur, on n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que plus le mal grandit, plus la puissance de Dieu sera grande aussi. Alléluia. Plus l'opposition de l'ennemi sera grande, plus la présence, la bénédiction et la protection de Dieu sera grande aussi. Alléluia. Car Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu sera avec vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec vous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre vous. Alléluia. Ne craignons pas l'ennemi. Nous avons été délivrés. Nous sommes un peuple libre. Voilà la vision céleste qui doit être devant nous, nos amis. Mes amis, quelle belle vision. Alléluia. Avec cette vision-là, nous pouvons aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle et libérer les captifs. Mais si tu crois que tu es encore captif toi-même, comment veux-tu aller libérer les autres? Tu es un homme libre.
La croix t'a libéré. Crois-le et tu verras la gloire de Dieu. Et va annoncer ce message. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà les 7 grandes délivrances que Dieu nous donne à la croix du calvaire. Puissions-nous y croire de tout notre cœur, le vivre et l'annoncer aux autres pour la gloire du Seigneur et pour le bien d'un grand nombre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la vérité. Merci pour la croix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas oublier ton sacrifice. Là où tu as payé notre dette, nous n'avons pas à payer quoi que ce soit nous-mêmes, Seigneur. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons nous délivrer. Et nous ne pourrons jamais nous délivrer par nous-mêmes. Ni aucun homme ne pourra le faire. C'est pourquoi toi, tu l'as fait à la croix une fois pour toutes. Et maintenant, tu nous dis que nous sommes ressuscités avec toi. Et que nous vivons une vie nouvelle. Et que nous devons faire mourir les actions de la chair. Parce que nous sommes un peuple consacré. Un peuple saint. Obéissant à l'Éternel. Merci pour cette grande délivrance de notre passé. Et merci pour cette glorieuse, ce glorieux avenir qui est devant nous. Merci pour ce présent où tu es tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen.